Saint Antoine s'invite à dîner. Dans l'église de Beaugneux du Comtat, il existait, à l'époque où s'est passé ce dont je vais vous parler, il y a de cela longtemps, un tableau représentant Saint Antoine et son fidèle compagnon. Le pinceau qui les avait peints était si habile et si expert, il leur avait donné des couleurs si vives que lorsqu'on regardait le saint et la bête, il semblait le saint allait ouvrir la bouche pour vous parler et élever la main pour vous bénir, et le cochonnet allait pousser un grognement et remuer sa petite queue nouée en trompette. À Beaugneux et à 7 lieues à la ronde, ce saint Antoine et son compagnon, chef-d'œuvre de Paroissel et présent d'un vice-légat d'Avignon, a toujours eu et aura longtemps un grand renom. On y raconte encore ce qu'il advint au sujet de cette toile, il y a de cela près de 100 ans, à une demoiselle de bonne famille nommée Antoinette de Guimberti. Misée de Guimberti était une grosse dévote. Elle avançait en âge, tant que, de l'avis de bien des gens, elle radotait de fois à autre. Pour tout dire, elle était, de nature, un peu simple et crédule. Pauvre innocente! Elle n'était pas encore tout à fait dans l'enfance, mais elle y revenait petit à petit. Ce n'est pas qu'elle ne fût, à l'occasion, capable d'un gentil raisonnement, mais ce saint Antoine l'avait tant et si souvent émotionnée, sa foi en son céleste patron était si ardente, elle en avait si fréquemment contemplé la face éblouissante, la barbe noire et blanche, elle était restée, dans sa vie, tant de fois bouche béante à ses pieds et grenant son chapelet, qu'elle s'était prise de passion pour lui en devenir amoureuse. Il fallait bien qu'il en fût ainsi, car lorsqu'elle était ou qu'elle se croyait seule dans l'église et la chapelle de son Seigneur Saint Antoine, elle lui parlait comme si le bienheureux eût été de chair et d'os et plein de vie. Elle lui disait « Beau Seigneur Saint Antoine, ne me regardez pas ainsi, car les rayons de votre face me font baisser les yeux comme les rayons du soleil. » Un samedi, veille de Notre-Dame de septembre, que Misée d'Ingenberti avait plus que jamais l'âme bouleversée et l'esprit dans les nuages, elle vint lui dire « Antoine, ô beau Seigneur, mon patron, n'êtes-vous point fatigué de rester là, toujours seul dans votre désert, seul avec ce sale animal? N'êtes-vous pas dégoûté de ne ronger que des racines et de ne boire que de l'eau claire? Ah, si vous veniez me rendre visite un soir! Nous souperions ensemble et vous vous referiez un peu. Il y a bon pain blanc chez nous et, dans un coin, du vieux vin d'une vigne que nous possédons à la Claparède. Quand donc, bel ami, quand donc voudrez-vous venir ? Demain soir, si cela vous agrée, lui répondit aussitôt une voix claire et caressante. Demain soir, dès que 8 heures sonneront. « Oh, Monseigneur Saint-Antoine ! » s'écria la demoiselle affolée. « Enfin, vous me répondez ! Ah, soyez à jamais béni, divin ami de mon âme ! Dès que 8 heures sonneront, hein ? Je vous attendrai ! J'irai ! Vous frapperez à la porte, je veux avoir moi-même l'honneur de vous ouvrir !» Cela dit et convenu, Mademoiselle d'Engimberti s'agenouilla et fit son acte d'action de grâce, le cœur ravi d'espoir et plein de reconnaissance. Puis elle se leva et, s'inclinant courtoisement, elle salua son seigneur et patron. De l'église à sa maison, il lui sembla que les anges la portaient. S'ils ne la portèrent pas, je penche à croire qu'ils l'empêchèrent de dégringoler, tant elle était émue, les 80 marches et plus que compte l'escalier par lequel on monte jusque là-haut, à l'église de Beaugneux, et par lequel on en descend jusqu'en bas. C'était, il faut vous le dire, car peut-être ne le devineriez-vous pas, ce vaurien de Luquet, le sacristain, qui donnait ainsi rendez-vous à la pauvre innocente. Un sacristain fait au moule et réussi. Le souvenir s'en est conservé à Beaugneux et il s'y est longtemps répété que Luquet ne dédaigna jamais le bon vin blanc de la sacristie et jamais ne bouda au bon morceau. Et, nonobstant cela, le cou penché comme une figue trop mûre, le front incliné sous une calotte de soie noire qui lui tombait sur les yeux, le regard perçant, luisant et oblique, le tété doux, la voix câline et si dolente, que lorsqu'il disait « Pour les âmes du purgatoire », il vous tirait les sous du fin fond de la poche. C'est justement ce samedi-là que Luc mit à exécution le projet qu'il avait conçu. À midi, heure à laquelle l'église est déserte, après qu'il eut sorti de leur fourreau les grands chandeliers et la croix du maître-autel, versé de l'huile dans la lampe qui brûle devant nuit et jour, devinant que la vieille hallucinée allait venir, ainsi qu'il l'avait maintes fois surprise, converser avec son seigneur et patron, lui faire les yeux blancs à genoux, gémir, sourire et pleurer, le bon apôtre s'accroupit et se dissimula dans l'angle le plus obscur de la chapelle de Saint-Antoine. Il avait bien calculé, mis et vint, soupira, et son patron entendit ses soupirs. La damoiselle partit, le sacristain s'esquiva, riant à se déchirer la peau du ventre. Lorsqu'Antoinette, les jours pourpres et les yeux noyés de larmes de joie, arriva à son logis, « Martine ! » cria-t-elle en entrant. « Martine ! Martine ! » !»« Votre servante, mademoiselle !»« Voici !» fait mademoiselle en mangeant la moitié des mots, tend sa langue à la fièvre et tend les paroles affluent sur ses lèvres. « Voici, un ami, un grand ami de la famille, ami respectable, viendra demain, demain soir, au coup de 8 heures. Il viendra demain me tenir compagnie et souper avec moi, à 8 heures précises. Il frappera, j'irai lui ouvrir. Mademoiselle, est-il bien nécessaire que vous... J'irai lui ouvrir, car vous aurez assez à faire. Et que la table soit mise de bonne heure, et comme il convient, entendez-vous, et que rien n'y manque. Cela suffit, mademoiselle. Que sera-ce encore que tout ceci, se disait la servante. Elle est de plus en plus fantasque, et son chien fait la farandole. Que le Seigneur Dieu ait enfin pitié de nous, et y mette sa sainte main. Le lendemain soir, pourtant, la cuisine de Martine embaumait et sa bonne odeur était bien faite pour aiguiser l'appétit. Pot-au-feu conduit avec lenteur à petit bouillon, carbonate haut en goût, petits poissons et coquilles d'écrevisses de Saint-Symphorien, plus délicates et plus savoureuses que celles de Lille, pois gourmands de la Canourgue, l'apéro de la Valmasque rôti et, pour dessert, pêches et clairettes, langue de chat, macarons, biscuits et sucreries. Et ce qui, dans un festin, jamais ne doit être oublié pour le coup du milieu, liqueur de couvent. Tout le long du repas, vin vieux des Dinguimberti et, pour couronner la fête, café exquis et flacons de Kuduna, comme on sait si bien le faire à Beaunieu. Elle était de bonne maison, misé Dinguimberti, et par tradition, elle faisait bien les choses. 8 heures n'avaient pas sonné que mademoiselle Dinguimberti était prête. Elle avait mis sur elle tout ce qu'elle avait de plus riche et de plus beau dans sa garde-robe et ses coffres. Robe de soie à ramages toute garnie de dentelles, collier de perles fines au cou, bracelet d'or au poignet, étoile de diamants aux oreilles et aux doigts. Et avec ça, pourquoi ne pas le dire, les pommettes légèrement teintes de fard. Elle piquait sa dernière épingle et donnait une dernière œillade à son miroir lorsqu'on frappa violemment à la porte. Il ne manque pas l'heure, le gourmand. Et mademoiselle, la main sur le cœur, car l'émotion le lui mettait sens dessus dessous, descendit pour ouvrir. Entrez, monseigneur Saint-Antoine, soyez le bienvenu dans l'hôtel des Dinguimberti. Quel honneur pour la famille et quel grand jour pour moi. Entrez. Et Saint-Antoine et mademoiselle, se donnant le bras, entrèrent dans la grande salle et furent bientôt attablés en face l'un de l'autre, car Saint-Antoine avait faim. Peu s'en fallut que Martine ne laissât la soupière lui tomber des mains quand elle entra pour servir et qu'elle vit, les coudes sur la table, ce grand escogriffe, cet étrange ami de la famille, sous une ample robe carmélite, capuchon en tête, longue barbe grise au menton, grosse corde sur la bedaine, un frère mendiant, un faux récollet, un capucin de hasard, que sais-je, moi ? Un rouleur, un voleur de poulailler, un affreux pied plat, crasseux et puant, un meurt-de-faim, se pourléchant les babines à la seule vue de la vapeur qui montait de la soupe. Martine finit pourtant par se remettre et se résoudre à attacher le bouc là où sa maîtresse le voulait. Elle s'acquitta de son service en conscience. et Mademoiselle d'Enghiberti faisait galamment, avec une aisance aristocratique, une grâce suprême, les honneurs de la maison et de la table, et elle disait « Beau seigneur, ne prendriez-vous pas encore un peu de ceci ? Encore ce petit bout de râble, cette petite aile de perdreau !» La servante n'y voyait plus, elle croyait être le jouet d'un rêve infernal. Ah, mais voilà qu'après le coup du milieu, déjà gonflé de bonne chair, rond comme un haut, la barbe engluée de jus et de sauce, le nez rouge comme la crête d'un coq de ferme, la flamme de l'alcool lui sortant des yeux, l'abominable et fausse ermite oublie de déguiser sa voix, caquette, bredouille, parler à nonne, si bien que Martine reconnaît Luquet. Elle sort dardard, feignant d'aller chez le confiseur, chercher encore une assiette de friandises pour le dessert, et, courant à la cure, elle sonne à fêler la sonnette. « Sainte Croix, miséricorde, monsieur le curé » cria-t-elle haletante. « Au secours !»« Eh, que vous arrive-t-il, Martine ?»« Une abomination !» Et elle compte ce qui se passe, telle chose comme ceci, comme cela, Luquet par-ci, encapuchonné, barbe au menton, Saint-Antoine par-là, mademoiselle, le cerveau tout à fait détraqué. « Une abomination, vous dis-je, qui doit faire pleurer à cette heure les anges et les saints du paradis. Et qui sait tout ce qui peut arriver si vous n'y venez pas mettre bon ordre ?» Monsieur le curé avait grand-peine à ne pas éclater de rire. « Martine, dit-il, allez-vous-en vite. Soyez tranquille, je vous suis de près. Cela ne sera rien. » Il boit, je vous l'affirme, comme un trou, mange comme un porc, il part à tort et à travers, il est saoul comme une grive. C'est une confusion. « Je suis sur vos tibias, vous dis-je, pour tout réparer. Ce ne sera pas long. » Et vite, vite, monsieur le curé jette sur ses épaules une vieille chape hors de service, se confectionne avec du coton en rame une barbe blanche, se la colle au menton et sur les joues, prend les grosses clés de l'église et de la cure, et le voilà parti. En un saut, il est au logis des Enghiberti. Il entre tout à coup, Martine ayant eu la précaution de laisser la porte ouverte et... à la porte de la grande salle. « Qui frappe ?» dit la damoiselle. « Moi !» répond monsieur le curé, faisant sonner ses grosses clés. « Qui êtes-vous » « Saint-Pierre. » Et mademoiselle ouvre. « Entrez, grand seigneur Saint-Pierre, soyez le bienvenu dans l'hôtel des Enghiberti. Salut à vous et gloire à Dieu, mais si cela continue, cette maison sera le paradis même. Entrez !» Dès que Saint-Pierre aperçoit son Luquet attablé, le museau rouge comme braise, « Ah bon, dit-il, c'est toi que je cherchais. Enfin, je te mets la main au collet. Ah, c'est ainsi que tu fais l'école buissonnière, galopin !» Quoi qu'elle eût du fard sur les joues, mademoiselle d'Enghiberti devint pâle comme la mort, et Luquet se leva, branlant comme une sonnaille, et de peur s'affaissa. Saint-Pierre continuant, « Veux-tu te relever ou je te relève, moi? Est-ce possible? Comment se fait-il, misérable, que tu te sois ainsi esquivé du paradis sans ma permission, profitant pour sortir d'un moment où, là d'ouvrir et de fermer ma porte, je me suis endormi, la laissant entrebâillée? Eh bien, c'est à moi que tu vas avoir affaire. » Et à grands coups de pied là derrière, à grands coups de clé dans le dos, Saint-Pierre met dehors Saint-Antoine, qui, dégrisé, hurle « Aïe, 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 pardon, monsieur le curé !»« Que je t'y reprenne !» lui disait Saint-Pierre. « Je ne le ferai plus !» Et ils disparurent l'un et l'autre sans dire bonsoir. Misé d'Enghiberti, dans cette scandaleuse échauffourée, sentit, pauvrette, son cœur défaillir et s'évanouit dans sa chaise à bras. Et Martine, cachant autant qu'elle le pouvait sa jubilation et son envie de rire, délaça la pauvre toquée et la fit revenir à elle, en lui frottant de vinaigre les tempes et les narines, les poignets et le creux de l'estomac.